Écho d'économie.
À la une, ces résultats positifs de la RDC en termes de taux de croissance enregistrés de 2013 à 2014, croissance soutenue selon la Banque mondiale essentiellement par les mines. Et puis cette bonne nouvelle pour la ville de Mbujimayi, une usine de fabrication de semoule de maïs est opérationnelle depuis mercredi dernier. Elle est implantée dans le territoire de Katanda. Ce soir, nous ferons un tour en Ituri, voir comment se porte la production du coton, mais aussi celle du café. Bonsoir et bienvenue à tous. La Banque mondiale, bureau de Kinshasa, a présenté hier la deuxième édition de son rapport de suivi de la situation économique et financière de la RDC. Ce rapport couvre une partie de 2013 et le premier semestre 2014. Dans le dit rapport, la Banque mondiale fait savoir que la RDC affiche des bons résultats en termes de taux de croissance qu'elle enregistre, croissance soutenue essentiellement par les mines. Elle formule également des recommandations, comme nous l'explique Daniel Tambinzoni.
Au nombre de celles-ci, Mireille, la Banque mondiale demande au gouvernement congolais de briser le cercle vicieux de la fragilité. Cela veut dire, selon la Banque, un État fort sur le plan sécuritaire et un État fort en termes de création d'opportunités de développement pour tous les citoyens. Le suivi de la situation économique et financière de la RDC souligne aussi que la RDC a retrouvé un taux de croissance considérable et un dynamisme dans le secteur des mines, principal pourvoyeur des richesses du trésor public. Cependant, les mines ne mobilisent pas encore assez de recettes. Une meilleure mobilisation des ressources financières permettrait au gouvernement d'assurer la stabilité de son économie sans compromettre ses efforts de développement et de lutter contre la pauvreté. La Banque de Washington a également fait une recommandation en rapport avec la diversification de l'économie congolaise jusque-là portée par les mines. Et à propos, le directeur de cabinet adjoint du Premier ministre en charge des questions économiques présent à cette présentation a dit que les conclusions de la Banque mondiale étaient en phase avec le diagnostic fait et les remèdes proposés par différentes instances et structures de la politique économique du gouvernement. Quant à la bonne croissance de l'économie congolaise non encore ressentie dans les assiettes des Congolais, la pauvreté et le chômage encore grands, Vincent Ngonga pense que cette croissance et la stabilité devraient s'inscrire dans la durée pour que la pauvreté soit réduite.
La société Banro, une société de droit canadien implantée au Sud Kivu, se doit de respecter les normes et les réglementations exigées pour les entreprises canadiennes implantées dans les pays étrangers. L'ambassadrice du Canada en visite au Sud Kivu a échangé avec la direction de la société Banro hier. L'ambassadrice Ginette Martin a suggéré à la direction de Banro de voir les opportunités autour de leur site pour travailler avec les communautés. Selon l'ambassadrice, le Canada est également en train d'étudier les opportunités d'investissement. On écoute Ginette Martin au micro de Kadi Azuba.
On anticipe, oui, une visite à un des sites miniers de Banro. C'est une entreprise canadienne. Le Canada attache beaucoup d'importance à la conduite, le comportement de nos entreprises canadiennes. On exige qu'elles ne fassent dans un pays où elles ont investi. Elles ne peuvent faire moins qu'elles ne feraient au Canada. Donc, on attend d'elle un respect des normes internationales, des normes canadiennes, au-delà même des normes qui sont exigées dans le pays dans lequel elles œuvrent. En règle générale, on a des entreprises responsables. Il est évident que c'est pas l'exploitation des ressources naturelles, bien que c'est une ressource très importante qui va contribuer au développement économique du pays, éventuellement de cette région. Mais on se comprend que c'est pas là la solution. La solution existe aussi en termes de qu'est-ce qu'on peut faire autour des secteurs miniers pour les communautés qui, elles, ne vont pas pouvoir travailler dans une mine.
Ginette Martin a aussi rappelé que dans la coopération bilatérale, le Canada contribue à hauteur de 60 millions de dollars. Au Kasaï oriental, une nouvelle unité de production est opérationnelle depuis ce mercredi. Il s'agit d'une petite usine de semoule de maïs installée dans la cité de Chitenge, secteur de Sangou, en territoire de Katanda. Nous sommes à une dizaine de kilomètres à l'est de Mbujimayi avec Chris Mukand.
Cette entreprise de moyenne taille est l'initiative du groupe Kashala Nsenda, dirigée par un opérateur économique de la place. Il a bénéficié d'un prêt de fonds de promotion de l'industrie, FPI en abrégé, d'une hauteur de 300 000 dollars américains. Des fonds qui ont servi à l'achat de matériel et à la construction du cadre dans lequel le travail de transformation du maïs pour la production de semoule se déroule. La capacité de production n'a pas été révélée. Toutefois, Charlie Cachalansenda, initiateur du projet, croit, pince sans rire, que son entreprise va couvrir les besoins de la population de la ville de Mbujibayi et des habitants de la périphérie. Ils n'auront plus besoin de chercher à acheter de la semoule importée parce que la production locale est censée être d'accès facile même aux petites bourses. Il y a possibilité pour tout un chacun de diversifier son alimentation en consommant le maïs sous une autre forme de surcroît attrayante. Cette rétention de fonds, jadis destinée à la semoule commandée d'ailleurs, va permettre également d'alimenter le trésor public de la province, soutient Cachalansenda. L'implantation de cette petite entreprise répond aux besoins pressants de la province de résorber le chômage par la création des emplois et l'embauchage des jeunes sans emploi, affirme le ministre provincial de petites et moyennes entreprises au Kasaï oriental. Le gouverneur Alphonse Ngoï Kassangé, qui a coupé le ruban symbolique, reconnaît quant à lui que l'arrivée de l'usine de semoule de Tshitenge vient en appui à sa politique de relance agricole au Kasaï oriental. Il s'engage donc à soutenir l'œuvre et exhorte la population à consommer local. Mbujimayi, Chris Mukonde, Écho d'économie.
À Ouvira, nous parlons de l'identification des contribuables assujettis à l'impôt sur les revenus locatifs qui est à sa quatrième journée ce jeudi. 40 personnes, parmi lesquelles 14 chefs des quartiers et 26 recenseurs, ont été engagées pour cette opération de recensement qui ira jusqu'au 30 décembre prochain. Qui sont concernés par cet impôt et quelle est son importance? Le chef de division chargé de contrôle et ordonnancement des recettes non fiscales à la Direction provinciale de mobilisation et d'encadrement des recettes au sud qui vous répond. Firmin Assoumani est au micro de Fiston Goma.
Des difficultés majeures, bon, il y a tout simplement des gens qui disent, bon, lorsque vous venez identifier, vous allez, c'est peut-être, bon, après c'est le paiement qui va suivre. Bon, nous leur disons, effectivement, le paiement doit suivre pour notamment le paiement des impôts fonciers et impôts sur les revenus locatifs. Et en tout cas, la population est très réceptive à l'opération. Il y a effectivement trois documents. Il y a le document de recensement qui reprend le nom, l'adresse physique du contribuable. Il y a aussi un autre document qui va servir pour le paiement des IRL et un autre document qui sera affecté à la déclaration des IF, des impôts fonciers. On fait le recensement et des assujettis aux impôts et des assujettis aux taxes. Donc, commerçants, vendeurs, bailleurs et locataires, tout le monde est concerné. L'argent qui sera récolté va servir pour les infrastructures. Donc, c'est la province qui va affecter ces montants-là. C'est un prélèvement obligatoire, c'est sans contrepartie. D'abord, c'est ça la définition de l'impôt.
Écho d'économie. Le café et le coton sont toujours cultivés dans le territoire des Mahagi, frontalier à l'Ouganda, à 180 km au nord de Bunia. Cette production se fait sans aucun contrôle des services étatiques congolais. Le coton et le café congolais de Mahagi sont écoulés en Ouganda au détriment du Congo, qui ne profite pas des chiffres d'exportation de ses produits sur le marché international, comme nous l'explique José Deschartminga.
La culture du café et du coton a fait la prospérité de Mahagi depuis les années d'après l'indépendance. Les fleurs d'ornement des résidences ou des parcelles sont soit des caféiers, soit des cotonniers. Ces deux plantes sont présentes et vivent avec les Congolais des Mahagi. Pas un seul pas sans ces deux cultures. Leurs fruits sont exposés dans tous les coins. À Mahagi Centre, le café est séché sur la voie publique et attend ses acheteurs. Même sur l'artère principale, le boulevard Tata Ougwaru, le centre-ville de Mahagi. Si le café est plus perceptible dans les rues de Mahagi Centre, le coton l'est plus encore dans la collectivité des Wagungo à Mahagi Port. Des vastes champs de cotonniers sont cultivés dans cette localité lacustre, tel que les témoigne le chef de cette collectivité, Unenchan Chobidongo.
Ici, on cultive le coton. C'est la population qui se cherche elle-même, personne qui même songe à les graines aussi, ça provient de l'autre côté vers l'Ouganda.
Aucun service étatique ne sait dire aujourd'hui quelle quantité de café et de coton sort de Mahagi. Ce qui est sûr est que toute la production est écoulée en Ouganda. Ce pays impose même le prix d'achat de ses produits, ce qui lui profite. Témoignage.
Les Ougandais viennent acheter ici et ils nous posent avec leur prix. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Comme on est ici, enclavé, il n'y a pas la route, il y a la difficulté même pour aller vendre ça ailleurs. C'est eux-mêmes qui proviennent de l'autre côté pour venir chercher ça ici au Congo.
Ils vous imposent les prix, c'est quel prix? Ils achètent à combien et comment?
Un kilo pour le moment, ça coûte 800 à 1000 shillings.
Café, les cotons, bon, c'est cultivé, sauf qu'il y a, à notre niveau, c'est difficile puisqu'il n'y a pas des acheteurs nationaux. tout, ça va de l'autre côté en Ouganda, ça ne rapporte pas pour les petits coins ici.
Donc, la production du café et du coton.
Et le café et le coton aussi.
Tout va en Ouganda.
Tout va en Ouganda. Donc, il n'y a pas des acheteurs. Oui, il y avait l'argent, puisque l'argent rentrait chez nous. Maintenant que les cotons vendent de l'autre côté, ils revendent sur le marché international. Et ça rentre dans leur compte. Ça rentre pas chez nous. C'est un manque à gagner pour le pays, quoi.
Les planteurs du café et du coton de Mahagi appellent le gouvernement congolais à encourager des investissements pour que le fruit de leur récolte soit acheté en RDC et exporté par elle. De retour de Mahagi, José de Chartemenga, Radio Okapi.
Et le zoom de ce soir porte sur la production du coton. Nadine Fulantimba.
Le coton est une fibre végétale qui entoure les graines des cotonniers. Le coton est la fibre naturelle la plus produite dans le monde. En tant que commodité cotée en bourse, c'est sur le marché d'exportation que se fixent les prix mondiaux de la fibre de coton, servant de référence dans les échanges mondiaux. Ces prix dépendent de l'équilibre entre l'offre et la demande, mais également du niveau des subventions versées aux producteurs des pays exportateurs. Dans le cas du coton, cette dernière variable joue un rôle indéniable, permettant à des pays comme les États-Unis de maintenir des niveaux de production importants et d'exporter leur coton à un prix très compétitif. Notons que le coton est cultivé sur 5 continents. On estime que sa culture implique entre 30 et 50 millions de personnes, l'immense majorité d'entre eux étant de petits exploitants vivant dans des pays en voie de développement ou émergents. 65 pays produisent aujourd'hui du coton dans le monde, dont 28 pays africains. Dans le classement des 5 premiers pays producteurs du coton, on a la Chine, l'Inde, les États-Unis, le Pakistan et le Brésil. Dans le continent africain, parmi les producteurs de coton de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, il y a le Burkina Faso, Bénin, Cameroun, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Togo pour ne citer que cela. Le coton reste le seul produit par lequel l'Afrique peut s'imposer sur le marché international, mais doit trouver des solutions à la problématique des baisses des rendements pour éviter la disparition de cette culture. En RDC, il faut souligner que le pays dispose des vastes étendues où cette culture était exploitée jadis. Mais depuis la chute de la production agricole nationale de la fin des années 80, le coton n'est que très faiblement cultivé au Congo-Kinshasa. Actuellement, on trouve le coton dans les provinces du Maniema, les deux Kasaï et le Katanga.
Écho d'économie, c'est fini pour ce soir. Une édition supervisée par Martin Sebujangwe, mise en onde par Mimi Kindo Acoustique et suivie par vous. Merci.